Cet épisode de podcast a été réalisé dans le cadre du Forum des ruralités engagées, pour échanger avec les nouveaux acteurs du développement local et découvrir les initiatives solidaires et ingénieuses qui germent dans les territoires ruraux. Cet événement a été organisé par Village Vivant, en partenariat avec l'AVIS, l'Agence d'ingénierie pour entreprendre autrement, et le RTES, le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Malheureusement, le forum n'ayant pu se tenir en présentiel en raison de la crise sanitaire, la majorité des ateliers ont été dématérialisés en visioconférence. Les témoignages prévus initialement ont, quant à eux, été enregistrés par la Traverse. Nous vous les livrons aujourd'hui au travers de ce podcast. Nous y tendons le micro à des porteurs de projets locaux qui œuvrent à faire vivre les territoires ruraux. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous rencontrons Arthur de l'Auberge de Boffre, un lieu multiservice comprenant une auberge, une épicerie et bien d'autres choses encore, qui ouvrira très prochainement à Boffre, en Ardèche. Avec lui, nous avons parlé des difficultés, mais aussi de l'intérêt d'ouvrir un commerce en période de crise sanitaire, et de l'accompagnement à la création de projets dont ils ont bénéficié. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Alors, moi je suis Arthur, je suis un des associés de l'Auberge de Boffre qui va réouvrir ses portes dans le village de Boffre, sur le plateau du Vivarais, en Ardèche.
Oui, justement, est-ce que tu peux nous présenter ton territoire ?
Alors, nous on est situé à Boffre, qui est un petit village de 600 habitants qui se trouve, qui fait partie des premiers villages en haut du plateau au-dessus de Valence. C'est l'Ardèche du centre qui est le plateau du Vivarais. On est entre Alboussière et Vernoux en Vivarais. C'est assez vallonné, ça ressemble un petit peu à de la campagne, de plaine, mais sauf que c'est sur un plateau qui est situé à 700 mètres d'altitude. Donc on a un petit peu la différence. Enfin voilà, c'est une sorte de campagne d'altitude, on va dire.
Normalement, cet entretien aurait dû avoir lieu dans le cadre du Forum de la ruralité engagée, le Forum des ruralités engagées. Et du coup, j'aimerais bien savoir pour toi, qu'est-ce que c'est la ruralité ?
Alors pour moi, la ruralité, c'est ce qui n'est pas, la ville, en fait. C'est ce qui n'est pas les métropoles. C'est un endroit où on est quand même... plus proche de la nature, on va dire, dans lequel on est un petit peu éloigné des grands centres urbains. Alors Boffre, oui, c'est une commune rurale. On est au milieu entre les champs, les montagnes et les forêts. C'est un endroit où on est vraiment entre les châtaigniers, les sapins, les rivières et les prairies. Il y a pas mal d'élevage un petit peu de maraîchage, mais beaucoup d'élevage, donc pour ce qui est viande, fromage et tout ça, voilà.
Et est-ce que tu pourrais nous dire aussi ce qu'est ta définition de l'engagement ?
Alors pour moi, l'engagement, je pense que c'est une façon de se sentir concerné. Et c'est aussi une manière de réfléchir à ce qu'on fait dans l'objectif qu'il soit utile pour les autres et pour soi-même.
Du coup, maintenant, on va parler plus précisément de votre projet, de l'Auberge de Boffre. Est-ce que tu pouvais nous raconter l'histoire de ce projet et où vous en êtes aujourd'hui ?
Alors le projet de l'Auberge de Boffre, il remonte bien avant l'Auberge de Boffre. Il y a une petite quinzaine d'années à Lyon. C'est un groupe de personnes qui se sont retrouvées et qui ont souhaité remonter un café-restaurant dans le quartier de la Guillotière qui s'appelle Le Court-Circuit, qui fête ses 11 ans maintenant. Qui a été monté en SCOP, en autogestion, et qui travaille les produits locaux de saison, majoritairement en circuit court. Et en fait, rapidement, 5 années plus tard, il y a eu un petit groupe qui est parti, qui a monté un autre bar-restaurant, plutôt axé sur la bière, qui s'appelle le Biéristan, qui maintenant compte 20 associés. Le court-circuit a à peu près une douzaine de personnes qui travaillent actuellement. C'est des structures donc, qui sont toutes en autogestion, en scope, et qui partagent des valeurs en termes d'écologie, de démocratie dans le travail. Et en fait, comme ces deux structures se sont montées, elles avaient besoin d'avoir des liens entre elles. Et en fait, les liens, ils se sont faits avec un réseau qui s'appelle le Grenade. Et le Grenade, c'est le groupement d'entreprises alternatives en développement. Et en fait, c'est par ce réseau-là qu'on a réfléchi en fait, à un moyen d'accompagner en fait, les personnes qui partent de ces structures. Parce qu'on sait que dans la restauration, il y a quand même un petit peu de turnover. Et on avait des personnes qui partaient et qui allaient monter potentiellement d'autres projets intéressants. Et voilà. Donc, il y a une personne qui était cuisinier au Biristan, qui est partie faire quelques années en Corse et qui a souhaité revenir dans sa région un petit peu natale, c'est-à-dire Valence et son bassin et donc la partie de l'Ardèche dans laquelle on se trouve. Et donc en novembre 2018, donc Mario et Malika ont découvert le lieu et ils ont vraiment flashé dessus, sauf que c'était un lieu qui faisait 800 mètres carrés, qui était assez vétuste. Et donc ils se sont dit, c'est certainement un projet collectif qu'il faudrait monter là-dedans parce que c'est trop grand. Mais en même temps, c'est tellement bien que ce serait dommage de le laisser passer. Et donc, ils ont contacté Le Grenade, justement, parce que Mario avait déjà fréquenté ces structures-là. Le Grenade a voté pour, quoi, a dit que c'était intéressant. Ils ont souhaité accompagner le projet. Mais il y avait donc cet autre angle qui était compliqué, qui était l'immobilier, donc l'achat du bâtiment et surtout la rénovation. Et donc, par des connexions personnelles, Village Vivant était en train de démarrer et ils ont été mis en contact. Et donc, c'est un projet qui s'est monté à peu près, on va dire, au début de l'année 2019 avec donc le montage, on va dire, financier, humain et puis le montage de projet, même au sens philosophique du terme. De créer ce lieu qui est de réouvrir en fait l'auberge de Boffre, mais sous forme collective, sous forme d'une scope en autogestion. Et donc petit à petit, je vous passe un petit peu les détails, mais des gens sont arrivés, se sont greffés au projet. On a été 4, puis 5, et actuellement on est 5, et on est à quelques mois de l'ouverture d'un lieu qui sera multiple, qui est un restaurant, bar, épicerie, relais poste, espace de travail partagé et de la location de salles pour des séminaires, des ateliers. Voilà.
J'avais une question justement sur le choix des activités, sur les activités qui seront disponibles dans ce lieu, puisque j'ai vu qu'il y avait une poste, qu'il y aura une poste, et je trouve ça intéressant quand on parle d'accès aux services publics en milieu rural. Du coup, je me demandais comment est-ce que vous avez défini quelles activités rentreraient dans le lieu.
Alors en fait, le côté bar-restaurant, c'est quelque chose qui était un petit peu l'objectif de base, c'est-à-dire que les personnes, Mario et Malika, là, qui cherchaient le lieu, ils cherchaient à ouvrir un bar-restaurant. Et en fait, donc ça a été, on va dire, la base. Et puis ensuite, l'épicerie, c'est arrivé par non seulement le besoin, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de commerce de nourriture dans le village, donc ce qui est quand même assez pratique pour les villageois de pouvoir faire leurs courses sans prendre leur voiture. Et on sait également que en fait, un restaurant et une épicerie, l'épicerie, c'est le stock du restaurant et le restaurant, c'est l'endroit où on transforme les produits de l'épicerie, et l'épicerie, c'est l'endroit où on vend les invendus du restaurant, et etc., etc. Donc en fait, c'est des activités qui sont très complémentaires. Ensuite, pour le relais poste, ça a été une idée qui nous a été suggérée, et c'est vrai qu'il n'y a plus de poste à Boffre depuis bien longtemps. On va être le projet, en fait, le premier projet de relais poste ESS d'Ardèche. Alors c'est petite parenthèse, en fait, nous, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on est un projet qui est souvent premier dans tout. C'est-à-dire qu'on est, premier achat de village vivant, on est premier projet hors métropole lyonnaise pour le Grenade, on est premier relais ESS d'Ardèche, on est premier, quoi. Et en fait, alors ça fait super classe de le dire, on est hyper avant-gardiste, tout ça, mais en vrai, on essuie aussi pas mal de plâtre, il y a pas mal de gens qui, du coup, qui ont du mal à imaginer comment nous accompagner réellement. Voilà. Enfin, le coworking, c'est quelque chose qui s'est construit sur place, puisque y avait quand même pas mal de mètres carrés et c'était bien de les rendre utiles. Et en fait, c'est une pratique qui se développe énormément en ville, mais qui se développe d'autant plus à la campagne, parce qu'on voit actuellement une grande exode urbaine. En fait, les gens... beaucoup de gens, notamment de trentenaires, qui quittent la ville parce qu'ils souhaitent vivre plus sainement, on va dire, et plus proche de la nature. Et donc, on a beaucoup de néo-ruraux qui viennent s'installer dans les campagnes. Et souvent, ils ont besoin, en fait, ils ont besoin d'espace pour pouvoir travailler. Et c'est parfois des professions libérales qui peuvent louer un bureau. Voilà, donc... Pour nous, c'était important d'une part de pouvoir répondre à ce besoin parce qu'on a des espaces de coworking, de travail partagé qui sont saturés en fait sur le plateau. Et puis à la fois, c'est important d'un point de vue de l'inscription du lieu dans son territoire de pouvoir en fait avoir des entreprises en fait qui vivent dans ce lieu. Voilà, ça nous fait, on va dire, ça permet de nous inscrire vraiment dans un territoire. Et après, enfin, la location de salle, ça c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, dans le cadre du Grenade, parce qu'on mène beaucoup d'activités de formation. Donc c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de locaux. Et puis en plus, on s'aperçoit là de plus en plus le groupe La Poste, on a beaucoup de gens dans le réseau des SCOP de la région qui nous disent qu'ils sont toujours à la recherche de lieux qui sont chouettes. Et nous, de pouvoir accueillir des gens pour faire des séminaires, des formations, des cours, et qui peuvent derrière se faire une petite grillade avec un bon vin naturel, c'est toujours bienvenu.
Et justement, par rapport à l'autogestion, j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu plus. Et par exemple, comment est-ce que ça se traduit une organisation autogérée sur un chantier, puisque vous en êtes encore au stade du chantier, même s'il touche à sa fin. Et comment vous prévoyez de vous organiser dans le fonctionnement courant du restaurant et du lieu en général en autogestion?
Alors, l'autogestion, c'est simple, hein, c'est le bordel, tout le monde s'engueule, rit. Non. Je rigole. Non, l'autogestion. La question du chantier, elle est quand même assez parée de la question de l'entreprise, parce que c'est vraiment Village Vivant qui s'occupe de la partie immobilière et rénovation. Donc, nous, on donne des avis, et c'est des avis qui sont pris en concertation avec toute l'équipe par rapport à la à la pertinence de l'aménagement du lieu et des espaces qui vont être créés à l'intérieur du lieu, parce qu'il faut savoir qu'on a gardé quasiment que les quatre murs et le toit, hein, donc on a eu une page blanche, donc c'était plutôt assez grandiose. Ensuite, toute la partie toute la partie rénovation, elle est réalisée par une douzaine d'entreprises qui, eux, ne sont pas en autogestion, et ensuite financés par Village Vivant, qui, eux, ne sont pas non plus en autogestion. Donc, nous, vraiment, la question de l'autogestion, elle est sur la SCOP Auberge de Boffre. Donc, c'est le travail d'autogestion. Il concerne, il a beaucoup concerné, oui, en effet, la définition des, la destination des différents espaces de l'endroit. Ensuite, l'aménagement. Et après, surtout, la structuration de l'entreprise, c'est-à-dire l'offre. L'organisation du travail, l'équipement et puis ensuite notre organisation interne au sein de l'entreprise. Et plus clairement, nous, ça fait à peu près 15 ans qu'on a des entreprises qui tournent en autogestion dans le réseau. L'autogestion, elle se traduit par... officiellement, on est obligé d'avoir des co-gérants parce que c'est une obligation légale. Donc, nous, on fonctionne avec deux co-gérants qui ont une part de responsabilité supplémentaire par rapport aux autres. Mais c'est une obligation légale. Et ensuite, on travaille par groupe. Donc, il y a des groupes un peu transversaux, donc des groupes qui s'occupent plutôt de la communication, d'autres qui vont s'occuper plutôt de l'aménagement. Certains vont entreprendre la partie plutôt restauration et compagnie. Donc, on fonctionne plutôt par thématique, avec des référents par thématique. Et donc, en gros, chacun a ses missions assez précises. Et il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas traverser tant que le groupe, l'ensemble du groupe ou le sous-groupe n'a pas donné un accord. Donc c'est, on va dire, un travail de la démocratie au sens réel du terme. Voilà. En fait, les décisions qui sont prises en autogestion sont beaucoup plus longues à être prises parce que les discussions sont plus complexes. Mais par contre, derrière, elles sont beaucoup plus efficaces sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est souvent un petit peu décourageant, parce que c'est des débats qui sont parfois longs, mais derrière, au moins, c'est efficace. Voilà.
Est-ce que tu peux aussi compléter ce que tu disais sur votre ancrage local et comment il se traduit, le fait que vous vouliez être une structure ancrée localement, donc qui est passée par le fait de repérer les besoins, d'avoir cet espace de coworking. Est-ce que... ça se traduit aussi par les liens que vous créez avec d'autres producteurs, d'autres entreprises dans le coin ?
Nous, on est arrivé il y a maintenant presque 2 ans pour certains, 1 an et demi pour d'autres et 2 mois pour les derniers. On est un lieu qui se monte par rapport à nos valeurs, par rapport à nos envies, mais aussi en effet par rapport au territoire. Donc on est assez on est nous déjà en termes d'approvisionnement on souhaite s'approvisionner le plus localement possible. L'idée c'est quand même de manger, de servir et de transformer ce qui se passe dans le coin. On a choisi par exemple les cuissons 100% feu de bois dans le restaurant, donc on a des équipements assez lourds qui ont été installés, four à bois, barbecue, cheminée, cuisinière à bois, parce que le bois c'est une ressource qui est en abondance par chez nous. Ensuite, on a un réseau de producteurs qui est en train de se créer là depuis 1 an et demi, qui commence à être quasiment complet, on va dire, sur les produits de base. Et ensuite, on a des liens politiques, donc on est très lié avec la commune. On parle beaucoup avec les élus, on a beaucoup d'échanges. Alors, c'est vrai que nous, on est ravis qu'on ait une commune qui soit accueillante, qui soit disposée à nous arranger, à faciliter notre installation. Et à la fois, eux, ils sont ravis d'avoir une structure qui ouvre et qui va répondre à pas mal de besoins et qui va renforcer l'attractivité de la ville. Et ensuite, on commence à entreprendre d'avoir des liens avec la communauté de communes. Donc, sur toute la partie politique, c'est vrai qu'on on essaye d'être actif. Ensuite, on est dans les réseaux de tourisme petit à petit. Et après, on essaye de créer, c'est vrai, en tout cas pour l'ouverture, une communication qui va se faire à une échelle plus locale, une communication qui va se faire sur le bouche à oreille, sur les espaces, les lieux qu'on aime autour de nous. Et c'est vrai qu'on commence à avoir des liens très sympathiques avec les commerces des alentours, avec les restaurants qui nous entourent, parce que en fait il y a déjà plein de jeunes qui ont ouvert des lieux qui sont chouettes dans le coin, et ça fait plaisir. L'ouverture, elle était prévue pour mars, puis elle était prévue pour juin, puis elle était prévue pour juillet, puis après pour septembre. C'est vrai qu'on a eu le Covid qui est arrivé, qui nous a pas mal ralenti. Et puis ensuite, on est sur des travaux, comme je disais, où on a gardé assez peu de l'ancien. On a vraiment tout repris, les isolations, tous les réseaux. On a refait l'ensemble de la structure du bâtiment. Donc, on l'a remis complètement aux normes. Et donc là, on est sur les finitions, et les finitions, c'est ce qu'il y a de plus long. Et donc, on espère ouvrir soit à la fin de l'année, soit début d'année 2020, T1.
Le secteur de la restauration est en difficulté dans ce contexte de crise sanitaire. Est-ce que c'est une source d'appréhension pour vous, ou est-ce que vous avez ou est-ce que vous êtes confiant? Parce que vous êtes dans un territoire où c'est peut-être moins, on ressent peut-être moins l'impact du Covid.
Bah nous, on fait la technique de l'autruche, on fait comme s'il n'y avait rien qui existait. Non, on a. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous tracasse cette crise, mais elle nous tracasse, on va dire, en tant que citoyen plus que en tant que commerçant. C'est un petit peu l'avantage qu'on a, nous, en tant que scope en autogestion, avec une gestion plus collective, c'est que, en fait, au lieu d'avoir un cerveau, on va dire, du patron qui va décider ce qu'il faut faire pour la boîte, en fait, là, déjà, on a 5 cerveaux qui s'activent et qui cherchent des solutions en permanence. Et donc, on sait que c'est des sociétés qui sont souvent, on va dire, plus agiles que d'autres, qui arrivent en général mieux à rebondir et à recalibrer les offres et à reproposer des choses qui s'adaptent en fait aux situations. Là, la réalité, c'est qu'en fait, on est en train d'ouvrir 5 commerces en fait en un commerce et qu'en fait, on n'est que 5. Donc déjà, on sait qu'on est en sous-effectif. Donc si jamais la crise nous obligeait à en condamner peut-être un et demi à l'ouverture, ce serait, je pense, pas forcément un drame, dans le sens où on arriverait à peut-être à être juste à un effectif normal et à pas être en sous-effectif pour l'ouverture. Ensuite, nous, c'est sûr qu'on est touché, la restauration, le restaurant et le bar, c'est quand même des choses qui sont très ciblées, on va dire, en ce moment par les autorités et parce que c'est des lieux de contamination. Mais à côté de ça, on ouvre aussi une épicerie qui est, on va dire, la solution et l'endroit qui tourne le plus pendant les crises, parce que les personnes préfèrent acheter localement, préfèrent acheter à côté de chez elles, éviter d'aller dans les supermarchés. Donc on sait qu'on a une grosse carte à jouer, en fait, en termes de en cas de crise, en fait, les gens préféreraient venir chez nous. Donc on a la partie nourriture à emporter. C'est vrai que nous, on a prévu de faire quelques soirées où on vendrait des sortes de tartes italiennes dans des cartons. On sait que ça fonctionne bien. Voilà, les pizzaiolo, ils cartonnent pendant les temps de crise. Les épiceries, elles cartonnent pendant les temps de crise. Donc on a, je pense, les moyens de rebondir et de commencer peut-être sur certaines activités plus que d'autres. Et puis voilà, si jamais il n'y a pas de restrictions et si jamais la fréquentation elle est au beau fixe, et ben, ça nous permettra peut-être d'embaucher tout de suite et plus rapidement que prévu.
Oui, ça m'intéresserait d'avoir plus d'éléments sur le soutien que vous avez reçu à la fois du Grenade et de Village du Vent. Qu'est-ce que vous ont apporté ces deux structures et peut-être d'autres structures qui vous ont accompagné dans la création de votre projet ?
Alors, nous, on a été, on va dire, qu'on fait vraiment partie des projets qui ont été super accompagnés. je ne vais pas dire trop, parce que je ne pense pas qu'on soit trop accompagnés dans la vie. Mais en tout cas, on va dire, dans l'ordre de proximité, on a actuellement le Grenade, qui est clairement un groupe d'appui, qui nous permet de réfléchir sur notre offre, notre organisation, la rentabilité de notre lieu. Parce que l'objectif, c'est, en tout cas pour nous, c'est vraiment de travailler dans la restauration à 35 heures par semaine en ayant un salaire décent, ce qui est quasiment inexistant dans la restauration et qui pourtant fonctionne déjà depuis des années dans nos structures. Donc on sait que c'est possible. Donc le Grenade nous aide à mettre en place ça. Et après, on est une des structures qui est peut-être qui a, c'est sûr, le plus d'activités différentes dans le réseau. Donc c'est un accompagnement qui est assez lourd pour eux aussi, autant que pour nous. Ce que ça nous apporte, c'est que vraiment, nous, on le dit souvent, on est un peu 5 poissons dans un bocal. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans notre bocal et en fait, ça arrive qu'on réussisse à se convaincre de choses en fait, qui sont totalement loin de la réalité parce qu'en fait, on se le dit et on se le redit. Et du coup, d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur, en fait, ça, des fois, ça nous décolle la tête du guidon et ça nous permet de revoir les choses avec une autre, avec un petit peu plus de recul. Ensuite, Village Vivant, c'est nos propriétaires. Donc eux, ils nous, avec eux, on parle essentiellement de la question du mobilier, de l'immobilier et de l'architecture. Et du coup, du financement de la construction du lieu. Et c'est des questions qui nous regardent beaucoup, enfin qui regardent beaucoup notre activité. Et c'est vrai que eux, ils ont aussi une forte expérience dans le montage de projets, donc ils sont toujours de bons conseils. Et eux, ils nous apportent énormément. Ils vont nous apporter, en tout cas, énormément de visibilité aussi d'un point de vue médiatique et politique, parce qu'ils nous apportent aussi des investisseurs. Ça. Ensuite, on a l'Union régionale des SCOP qui, eux, sont plutôt, qui ont été assez présents toute la phase de création. Donc, ils nous ont beaucoup accompagnés, conseillés, donné des outils. Et eux qui sont pas mal présents pour nous apporter notamment des réponses juridiques à nos questionnements, notamment sur toutes les questions d'AG, de statut, de structure, de tout ça. Et puis le reste, après, c'est plus de l'informel, on va dire, des réseaux, des gens qu'on côtoie dans d'autres réseaux qui nous apportent beaucoup. Et puis notamment les autres structures du Grenade qui, elles, sont beaucoup présentes. Voilà, là, on vient d'embaucher justement un ancien du court-circuit et une ancienne du Pierristan dans notre structure. Donc, voilà.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour finir ?
Tout le monde nous dit souvent qu'on est en train de réaliser le projet que tout le monde a envie de faire. Je pense qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans. Après, c'est souvent ce que nous, on dit, c'est qu'on a eu quand même un alignement pas mal des planètes par rapport à notre projet, parce que en fait, monter un lieu aussi grand avec autant de gens, surtout des personnes aussi différentes et avec autant de coûts et dans ce lieu-là, c'est complexe et ça demande aussi beaucoup de temps. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance, enfin, on a tous la chance d'avoir cotisé au chômage pendant des années et qu'en fait, ça nous a permis de pouvoir subsister pendant cette phase de création. Et je pense que c'est un projet assez exceptionnellement long dans sa structuration. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très marathon, on va dire, dans un montage comme celui-là. C'est vrai que passer 2 ans à se poser des questions sur comment est-ce qu'on va monter un lieu, c'est très long. Et c'est pas toujours facile, on va dire, psychologiquement, d'arriver à tenir dans la durée. Et c'est pour ça que je pense que dans ce genre de projet, c'est bien d'être accompagné et c'est bien d'avoir un sens même quand on décroche complètement, en fait, on puisse se raccrocher à ce sens-là. Moi, qui ai travaillé en tant qu'indépendant, puis en tant que fonctionnaire de la fonction publique territoriale, puis en tant qu'acteur du monde associatif, c'est vrai que quand je me posais des questions un peu philosophiques, profondes, à me dire « Oh là là, mais est-ce que je fais bien de faire ça ?» Et parfois, je me disais « Ben non ». Et alors que là, au moins, dans ce projet-là, il y a un côté collectif et politique qui, en tout cas, moi, me séduit. Et je pense, dans l'équipe, c'est aussi ça qui nous fait tenir, on va dire, sur le fond de notre action. Oui, c'est quelque chose qui nous paraît essentiel et important à mener, quoi.
Sur le modèle économique, est-ce que pour le moment, vous avez déjà des revenus de l'activité d'auberge et sinon, est-ce que vous avez des sources de financement qui permettent déjà de vous salarier?
Non. Nous, on touche zéro argent de l'auberge pour le moment. Les premiers salaires, ils seront versés à la création, enfin à l'ouverture du lieu. À partir du moment où il y aura des recettes, on a ouvert de façon très éphémère l'été 2019 et l'été 2020, qui étaient pour nous en fait plus des phases de test et d'approche de notre future clientèle. Qui ont été assez concluants, enfin, c'est-à-dire que ça nous a permis de beaucoup... Alors ça, c'est pareil, hein, c'est peut-être un luxe aussi qu'on a pu se payer, c'est d'ouvrir un petit peu juste pour tester. Et c'est vrai que ça nous a permis de pas mal recalibrer le projet, parce que ben, voilà, nous, on est arrivés avec nos idéaux de personnes qui ne venaient pas de là. Et donc, ça nous a permis de rencontrer bah, les habitants, les gens qui ont fréquenté, puis les gens qui vont fréquenter notre lieu. Donc, on a pu revoir un petit peu le modèle. Et puis, ça nous a permis aussi de nous conforter parce qu'on a eu une très bonne fréquentation du lieu, et notamment là sur l'été 2020 où on était complet à chaque fois qu'on ouvrait. Donc, du coup, c'était plutôt encourageant. Voilà. Mais en tout cas, pour les questions de rentabilité du lieu, après... nous, c'est des modèles qu'on a beaucoup exploré avec le Grenade. En fait, ça fait des années et des années qu'on engrange des chiffres pour essayer de trouver quels sont les modèles. Et on s'aperçoit qu'on a, je donne un exemple vraiment basique, hein, mais c'est que dans la restauration, en général, c'est 30-30-30-10. Enfin, c'est 30% main-d'œuvre, 30% établissement, 30% produits et 10% bénéfices. Et nous, c'est vrai qu'on s'aperçoit bah, au fur et à mesure du temps qu'en fait, on a envie de faire coller nos idéaux à ces modèles économiques. Et donc, on a un bénéfice qui est beaucoup moindre, parce que l'objectif, c'est pas de faire des bénéfices. On a une main-d'œuvre qui est plus chère, parce que forcément, quand on est plus polyvalent, qu'on est moins formé en arrivant, et qu'on décide de travailler en autogestion, ça fait plus de réunions. Et donc, on fait partie de gens qui travaillent dans des restaurants et qui ont 2-3 heures de réunion par semaine, ce qui est assez rare dans les restaurants classiques. Et on a envie d'avoir des produits qui sont meilleurs et pas forcément à des prix beaucoup plus chers. Donc, c'est des modèles qui sont revus, mais qui arrivent à tenir parce que, justement, on n'est pas dans une course au profit.
Merci à toi.
Eh bien, merci beaucoup.
Pour aller plus loin et mieux connaître l'auberge de Boffre, nous vous glissons plus d'infos en description de l'épisode. Cet épisode a été réalisé pour le Forum des ruralités engagées par La Traverse. Le micro a été tendu par Alexia Beaujeu. Nous remercions également tous les partenaires du Forum sans qui cet événement n'aurait pas pu se tenir, même dans ces conditions particulières. La Fondation La France s'engage, la Fondation RTE, l'Agence nationale de cohésion des territoires, la Banque des territoires, la Fondation Massif, la Fondation Crédit Coopératif et le groupe La Poste. Retrouvez toutes ces informations et plus encore sur www.villagevivant.com.